Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'être venu présent soutenir notre cause. Je voulais aussi vous raconter ce matin une petite histoire. Finalement, une histoire qui est assez symptomatique de ce que peuvent vivre les centres d'hébergement d'urgence sur l'agglomération lyonnaise. Donc cette histoire a commencé pour nous il y a maintenant presque 5 ans avec l'ouverture de notre accueil d'urgence à Fourvière, rue Kléber, d'où le nom de notre centre qui s'appelle l'accueil Kléber. On était alors logé dans une magnifique maison avec un très beau jardin dans le bâtiment d'une ancienne congrégation religieuse. Et nous y sommes restés 3 ans dans des conditions un petit peu particulières puisqu'il n'y avait quasiment pas de chambre et nous avions investi l'ancienne chapelle avec des boxes où nous faisions dormir 40 personnes, j'ai envie de dire dans une promiscuité indécente avec très peu de sanitaires, mais voilà, c'était une structure qui s'était montée en urgence avec les moyens du bord. Et nous avons depuis décembre 2005 tout fait pour trouver une solution digne pour les personnes qu'il nous est donné d'accompagner, d'accueillir dans notre centre d'hébergement. Au terme de ces 3 ans, le conseil général propriétaire du bâtiment nous a dit qu'il fallait quitter le lieu parce qu'ils en avaient un besoin imminent, que des travaux allaient commencer et qu'il était urgent de partir. Pour l'anecdote, depuis maintenant presque 2 ans, rien n'a bougé dans ce bâtiment, même pas un permis de construire sur la porte. Nous sommes donc descendus de notre colline pour rejoindre la confluence où nous nous sommes installés dans des bureaux, donc de nouveau pas un centre d'hébergement adapté. Nous avons tenté d'en faire quelque chose d'un petit peu plus respectueux de ces personnes en aménageant des chambres. Donc nous avons gagné en confort. Nous avons perdu en qualité d'environnement, puisque, à part le commerce d'âmes dans ces rues-là, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça fait maintenant donc 2 ans que nous sommes installés rue du Ployer, et notre bail se termine aujourd'hui. Évidemment, pendant ces 5 ans, nous n'avons eu de cesse d'interpeller des élus, les services de l'État pour qu'une solution soit trouvée et que l'on puisse définitivement s'installer dans un lieu. J'ai envie de dire, il y a un petit peu comme un effet miroir, c'est-à-dire qu'à l'image des personnes que nous accueillons, nous sommes nous aussi sans domicile. Nous transhumons de lieu en lieu dans l'espoir un jour de pouvoir prendre racine, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons eu une opportunité absolument merveilleuse. Nous-mêmes, nous n'y croyons, nous n'y avons pas beaucoup cru au début. Et cette opportunité, elle se situait précisément dans le 8e arrondissement, dans les locaux de l'ancienne clinique Montplaisir. Une solution idéale, parce que le projet visait d'une part à déménager de façon ferme et définitive notre centre d'hébergement d'urgence, l'accueil Kléber, 60 personnes, de créer 30 nouvelles places pour des personnes vieillissantes, de créer aussi des logements étudiants boursiers, je précise. La proximité en plus avec la faculté juste en face était pour le moins intéressante. Et enfin, nous avions décidé d'installer des salariés de notre association. Donc nous avions vraiment en tête l'idée d'un projet de mixité sociale, soucieux de ne pas faire n'importe quoi, et avec un bâtiment qui s'y prêtait, puisqu'il fait près de 5000 m², qu'il permettait d'avoir des entrées dédiées, adaptées à notre activité. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une espèce de confusion, de mélange des genres, mais chacun avait sa place, et tout ce petit monde allait pouvoir cohabiter gentiment. Donc tout allait pour le mieux. L'État soutenait cette initiative, et là j'ai envie de dire, pour une fois, parce que souvent on se plaint du côté un petit peu timoré de l'État qui peine à suivre ces projets, là on avait à la fois un soutien financier pour de l'investissement, pour du fonctionnement, et vraiment j'ai envie de dire, cette opération s'est montée en quelques semaines et c'était vraiment inespéré. Le terrain aussi était parfaitement situé, puisque très accessible, bénéficiant
également d'espace extérieur dans l'enceinte de la clinique. Et on sait que pour notre activité, c'est important d'avoir des lieux, tout simplement, où les personnes puissent se détendre, puissent fumer. Voilà, on évitait ainsi la concentration de personnes devant le bâtiment. Et puis, très bien situé, parce qu'on est au tout début de l'avenue des Frères Lumière, donc il n'y avait pas de voisinage de riverains trop proche. Donc, tout était parfait pour notre activité. C'était malheureusement sans compter la détermination d'élus de cet arrondissement. Et c'est aujourd'hui pourquoi nous sommes ici, dans le 8e, et qui, d'entrée de jeu, nous ont tout de suite dit il n'est pas question d'ouvrir un centre pour personnes sans abri sur le 8e. Nous sommes un arrondissement déjà trop social, et il n'est pas question de rajouter de la misère dans ce quartier. Il est vrai que le 8e est un arrondissement très social, on ne peut pas leur enlever ça. On peut même les féliciter. Simplement, en termes de centre d'urgence, à ce jour, il n'y en a pas d'autres sur le 8e. Il y a un projet, en effet, qui existe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas opposer du logement social à des centres d'hébergement pour personnes sans abri. On ne peut pas opposer des résidences sociales type ADOMA à des foyers pour personnes sans abri. Tout ne se compare pas. Les foyers pour sans-abri bénéficient d'un encadrement très important. Et du coup, il s'agit de choses très différentes. Et rappelons que le 8e représente une ville de plus de 80 000 habitants. Donc aujourd'hui, un projet de 40 places pour une ville de plus de 80 000 habitants, on peut se poser la question si c'est vraiment trop. Évidemment, depuis 5 ans... Ça n'a pas manqué dans cet arrondissement. On nous dit toujours, ce que vous faites, c'est formidable, mais si vous pouviez le faire plus loin, ça serait mieux. Voilà. Donc il y a un moment où j'ai envie de dire, nous poussons un cri de colère pour dire, ça suffit. On a besoin de lieux dans la ville, dans la cité, pour accueillir ces personnes. La morale de cette histoire, j'ai envie de dire, c'est finalement... une représentation complètement caricaturale de ces personnes que l'on appelle SDF. C'est un terme qui fait peur, donc on ne sait pas trop de qui on parle, quelles sont ces personnes. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'accueil Kléber, sur l'année 2009, on a accueilli près de 1500 personnes différentes. Sur ces 1500 différentes, on en a près de la moitié qui sont des enfants. Et sur ces enfants, on en a plus de 100 qui ont moins de 2 ans. Donc l'espèce d'image d'Épinal du SDF qui aurait une bouteille dans la poche, qui haranguerait la foule et qui serait agressif, est quand même pour le moins dépassé. C'est un cliché. Aujourd'hui, les personnes sans abri, c'est très difficile de dire qui elles sont et d'en faire un portrait type. Je tenterai de distinguer 3 catégories. On a d'abord toutes les personnes au statut administratif compliqué sur le territoire français et que nous mettons à l'abri. On a ensuite les personnes que l'on appelle de grands exclus, qui pour beaucoup sont des personnes qui relèvent de problématiques de santé mentale. Il faut quand même savoir qu'en France, dans notre pays, en l'espace d'une vingtaine d'années, on a fermé près de 50 000 lits dans les hôpitaux psychiatriques. Malheureusement, il n'y a pas eu des guérisons massives. Et dans beaucoup de centres, un petit peu aussi d'ailleurs comme dans l'univers carcéral, on retrouve des personnes qui devraient être prises en charge différemment. Mais c'est la réalité. Elles sont pour beaucoup dans les centres d'hébergement d'urgence. Et puis, une troisième catégorie, j'ai envie de dire qui sont des personnes qui relèvent vraiment de l'urgence, que j'appellerais les accidentés de la vie. Qui séparation, qui déprime, qui problématique d'alcool. Voilà. Mais tout ce petit monde représente finalement un panel extrêmement varié des personnes que l'on appelle SDF. Aujourd'hui, on peut dire que toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'elles ne sont pas défendues, elles ne sont pas représentées. Je prendrai une comparaison avec le monde du handicap. Derrière une personne en situation de handicap, en général, il y a une famille. Une famille qui va se mobiliser, une famille qui va se battre. Eh bien, pour ces personnes-là, il n'y a pas de famille. Et les seuls qui peuvent se battre, ce sont les professionnels. Et c'est aussi le sens aujourd'hui de notre engagement. c'est de faire finalement entendre la voix de ces 100 voix. Elles ont aussi un autre point commun, c'est que dans l'inconscient collectif, je pense qu'elles sont aussi perçues comme des parasites et que finalement, si elles en sont là où elles en sont, c'est que peut-être elles l'ont bien cherché et elles méritent finalement ce qu'elles ont. Évidemment, la réalité est très différente. Donc aujourd'hui, le sens de notre manifestation, c'est de dire on a un problème majeur parce que on avait enfin trouvé une solution qui était réelle, sérieuse, qui était soutenue financièrement, et cette solution a été torpillée en l'espace de quelques jours par la volonté politique d'élus. Moi, je ne peux pas admettre aujourd'hui que des élus viennent jeter de l'huile sur le feu, faire peur à des habitants. On sait que c'est compliqué. On sait que l'implantation de ce type de centre va nécessairement faire débat et qu'il va falloir faire évoluer les représentations, il va falloir rassurer, il va falloir expliquer quelles sont ces personnes et qu'est-ce qu'il va faire dans ce centre. Maintenant, si des élus prennent l'initiative d'aller rencontrer des riverains et leur faire peur, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas non plus continuer à accepter ce jeu de « c'est pas moi, c'est l'autre ». Quand on va trouver l'État, on lui dit, puisque c'est aujourd'hui la grande exclusion, est une compétence encore régalienne. Donc c'est normal d'aller trouver l'État et c'est normal que l'État assure le fonctionnement, l'investissement de ce type de centre. Mais l'État nous renvoie en nous disant bah, « écoutez, moi je suis désolé, on est prêt à vous soutenir, mais on n'a pas de foncier, on n'a pas de terrain ». Le terrain, aujourd'hui, il est au Grand Lyon. On va voir le Grand Lyon nous dit « mais nous, Grand Lyon, on n'a pas de compétences pour la grande exclusion. Allez voir l'État ». Et nous, ça fait 5 ans qu'on se balade comme ça, de collectivité en collectivité, de service déconcentré en service déconcentré. Et j'ai envie de dire maintenant, ça suffit. Ça suffit parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit de personnes avant tout, de citoyens d'un territoire. On ne peut pas continuer indéfiniment à les saucissonner au gré des compétences. On ne peut pas dire ben « non, c'est pas moi, c'est l'autre ». Et nous en appelons vraiment solennellement à, je ne parlerai pas de Grenelle parce que c'est tellement galvaudé, mais une espèce de réunion de consensus pour se dire « on a besoin autour de la table des collectivités territoriales et de l'État ». On a besoin du Grand Lyon, on a besoin de la ville de Lyon, on a besoin de l'État pour se dire, et du Conseil général évidemment, pour se dire quelle place on accorde à ces personnes. Comment on peut sortir de ce jeu des compétences et quelle politique un peu volontariste on peut avoir pour ces personnes. Parce que oui, il faut de l'audace politique. Oui, il faut se battre pour ces personnes qui n'ont pas d'autres personnes que des élus ou des professionnels pour les représenter. Mais on ne peut pas continuer à déplorer que des personnes survivent dans la rue et ne pas se donner tous les moyens pour leur trouver une solution. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème financier, ce n'est pas un... Voilà, on a les moyens financiers, c'est uniquement un problème de société, un problème politique, d'arbitrage, pour qu'une solution soit donnée. Et je terminerai en disant, il y a la question politique, mais c'est aussi une question qui nous concerne tous, et encore une fois, vous êtes là et c'est que ça vous intéresse, mais de se dire... Comment nous, tous ensemble, on est prêts à faire société et avec tout le monde ? On a sur ce beau fronton liberté, égalité, fraternité. Eh bien, la fraternité, comment on est prêt à s'en saisir ? Comment on est prêt à se battre pour cette fraternité ? Oui, c'est compliqué de faire société avec des personnes qui ont eu une trajectoire de vie un peu cabossée, un peu différente de la nôtre. Mais j'ai envie de dire, c'est à ce prix-là que nous sommes la République française. Donc voilà, quelle place collectivement on est prêt à laisser à ces personnes. Voilà, merci beaucoup. Alors, je suis évidemment prêt à apporter tous les éléments de précision puisqu'il a été dit beaucoup de choses qu'on nous avait promis de multiples terrains. Vous avez vu, on a essayé de symboliser une espèce de petite pyramide avec ces lits de camp. Parce qu'en effet, le Grand Lyon nous a proposé un terrain qui est situé dans le 2e arrondissement, à l'angle de la rue du Gamombel et de la rue Claudius-Collonge. Et l'emprise au sol fait à peu près la taille de cet empilement de lits.
Et du coup, pour arriver à contenir les 60 personnes que nous hébergeons chaque jour, il faut construire un immeuble de 6 étages. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire fonctionner avec les personnes que nous hébergeons un tel bâtiment. Voilà, mais nous sommes prêts à étudier toutes les propositions. Je vous invite aussi, si vous en avez la possibilité, à venir vous dénoncer pour ceux qui souhaiteraient s'engager à nos côtés. Alors, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez venir camper avec nous, vous pouvez le faire savoir, vous pouvez signer la pétition, vous pouvez écrire à vos élus, mais n'hésitez pas à nous faire savoir comment vous êtes prêts à nous soutenir dans cette démarche. Et encore une fois, ça va au-delà de l'association Régie, parce qu'il y a d'autres associations. Je pense à l'association Entretemps qui se bat aussi pour des terrains, pour des solutions. Je pense aussi à des associations comme l'Armée du Salut et bien d'autres qui aujourd'hui ou peut-être demain sur la recherche d'espace pour les personnes qu'elles accueillent au quotidien. Merci encore. S'il y en a qui veulent s'exprimer, c'est possible, sans problème.
Oui, bonjour, je suis Marie-Jo Pieguet, Union départementale CFDT, donc je vais parler au nom de l'intersyndicale CGT-CFDT-UNSA. Voilà, donc pour nous, les organisations syndicales, le problème de l'hébergement est un problème sur lequel nous sommes engagés depuis déjà pratiquement 2 ans, car effectivement, nous pensons, qu'il y a des lois, il y a eu la loi Dalo, la loi Moll, la nécessité aujourd'hui pour les personnes sans solution et sans abri d'être hébergées de manière pérenne et donc que la loi soit appliquée. C'est en ce sens que nous sommes allés plusieurs fois, à des rencontres avec l'État et la préfecture pour que ce soit acté dans ce sens. Nous nous sommes retrouvés aussi aux côtés des personnels de l'urgence sociale qui demandaient la création de centres d'hébergement et des moyens pour le 115. Donc notre parcours est déjà sur ce terrain-là bien acté. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons pris connaissance, parce que nous avons des administrateurs, les organisations syndicales dans les offices publics de l'habitat, et je crois que le PH, vous allez me le dire, le PH en question, c'est celui du Rhône. Non, du Rhône, hein. Voilà, moi j'ai l'information par notre administrateur qui nous a dit, je me suis renseigné il y a 10 jours, l'opération, brutalement, a été stoppée. Donc bien sûr le PH n'y peut rien, lui l'opérateur, il apporte des financements, il apporte son savoir-faire, mais c'est pas lui, le décideur politique. Donc nous allons bien sûr intervenir dans les différents OPH. Nous allons, alors de quelle manière, parce qu'aujourd'hui j'interviens un petit peu à chaud sur cette question-là, en disant les organisations syndicales sont à vos côtés, il est hors de question aujourd'hui vous parliez des gens qui sont dans la rue. Ils sont coupables d'être dans la rue, hein. Il y a dû avoir des erreurs dans leur parcours, c'est ce qui se dit, c'est comme ça le ressenti. Mais je peux vous rassurer, tous les chômeurs aussi sont des coupables aujourd'hui. Et certains nombres d'entre eux vont se retrouver sans droit, vont se retrouver dans la rue. Tous les malades aujourd'hui sont des coupables, des fraudeurs, on le sait très bien, nous qui sommes aussi dans les conseils de l'assurance maladie. Aujourd'hui, ceux qui sont sans moyens et démunis sont coupables de l'être, car aujourd'hui, c'est le travail et les carrières et l'argent et la réussite qui justifient notre place et la possibilité d'avoir un accès dans cette société, d'avoir un accès à un logement dans cette société. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à vos côtés et nous définirons les modes d'intervention de manière collective.
Oui, Roland Jacquet, j'interviens au nom du groupe des élus communistes de la ville de Lyon et du Grand Lyon. Oui, voilà, j'avais 2-3 choses rapides à dire. D'abord, saluer ce soutien assez nombreux d'initiatives un peu citoyennes et associatives. Et je crois que c'est très bien. Et c'est d'ailleurs, pour mon engagement, c'est parti un peu de là, quoi. Au mois de septembre, on a été alerté par les directeurs d'école, les assistantes sociales, de situations dramatiques de familles, d'enfants scolarisés qui sont à la rue. Et puis il y avait la perspective de la pandémie et on était alerté des risques que cela pouvait encourir. Et bien entendu, on est intervenu collectivement, on a écrit à tous les groupes de la ville de Lyon, on a trouvé des solutions, on a construit cette expérimentation de la clinique Mon Plaisir, qui a été ouverte pour un temps limité jusqu'au 15 avril pour 60 familles dans cette situation difficile, et c'est l'association Régis, c'est là que nous avons fait connaissance, qui gère l'expérimentation pendant 3 mois. Donc, grâce à l'initiative citoyenne, on a pu obtenir une progression et une expérimentation intéressante. Et on s'est très engagé là-dessus, on est très satisfait. En février, par hasard et indirectement, nous avons appris que l'OPAC du Rhône et la DAS cherchaient à pérenniser ce site pour vous héberger d'une manière de qualité, comme vous l'avez expliqué, et d'une manière pérenne, résolvant ainsi un problème qui dure depuis de trop nombreuses années. Bien entendu, devant cette opportunité, nous avons complètement approuvé et nous pensions que nous pouvions déboucher sur une solution positive. Les obstacles que vous avez parlé se sont soulevés, ça ne va pas pouvoir se faire et nous le regrettons. Bien entendu, maintenant, mon groupe et avec toutes les associations, toutes les forces militantes, politiques, syndicales, bravo et autres, nous voulons nous engager pour obtenir rapidement une autre solution qui convienne à vos besoins, qui soit de qualité, en sachant en plus qu'avec la fin de la trêve hivernale, il va y avoir de 400 à 600 personnes sans solution sur l'agglomération, et c'est bien entendu une extension de l'hébergement d'urgence qu'il faut gagner. Voilà donc un peu le sens des engagements de mon groupe.
Merci.
Je suis donc Bruno de Carbonnière, premier adjoint à la mairie du Second. Donc, j'excuse Denis Broliquier, notre maire, qui n'a pas pu être présent ce matin. Mais lorsque nous avons appris la situation du centre Kléber, qui est actuellement donc hébergé dans le deuxième arrondissement, et dans quelles conditions l'affectation sur la clinique Montplaisir n'avait pas pu se réaliser, nous avons été proprement scandalisés. Alors, je voudrais, moi, faire un témoignage. Oui, excusez-moi, j'ai un problème de voix, parce que j'ai déjà... je voudrais faire un témoignage comme quoi, si vous voulez, l'hébergement et l'urgence est quelque chose qui est tout à fait conciliable avec une population à condition de l'informer. Le second arrondissement accueille déjà le train de nuit, un hébergement d'urgence, et nous apprêtons avec Habitat Humanis sur le quai Perrache à les aider dans la construction d'un immeuble de 5 étages pour avoir un centre d'urgence et un centre d'hébergement. Nous avons également sur l'hôtel de Bordeaux un centre également d'hébergement au niveau de Notre-Dame des Sans-Abris pour des familles. Et je dois dire que nous n'avons aucun problème avec la population. Et comme l'a dit très justement votre président, il ne faut pas confondre l'habitat d'urgence et les problèmes que nous rencontrons avec ce type de population et ce qui est communément dans l'esprit populaire, je dirais, la population des Roms ou autres, enfin bref, qui peut poser problème avec la population. Donc il faut casser cet amalgame. Pour être plus positif, j'ai dit à M. Régis Collerat qu'en ce qui concerne l'implantation à Confluence, là où ils sont, Confluence, nous sommes dans la deuxième partie de Confluence. Nous n'avons pas encore constitué la zone d'aménagement. Il va nous falloir encore 1 an, 2 ans. Et donc, il n'y aura pas avant 3 ans de vente de droits à construire, c'est-à-dire un moment où les promoteurs pourront se saisir. Et qui plus est, nous voulons dans ce quartier faire un quartier exemplaire de mixité sociale et intergénérationnelle en permettant, si vous voulez, avec une plus grande densité, d'accueillir des populations différentes. Eh bien, moi, je vous propose 2 choses. Je vous propose, 1, d'augmenter la durée transitoire sur le centre Kléber, puisqu'il n'y a pas urgence, si vous voulez, à vous faire partir. Et deuxièmement, avoir avec les promoteurs, avec la SPLA, la possibilité de pouvoir, d'une façon pérenne et non pas de vous proposer un terrain qui fait 150 mètres au sol, rue du Gamambel, dans un endroit qui n'est absolument pas approprié, mais de vous proposer, dans la deuxième phase de confluence, un immeuble digne de ce nom, qui vous permettra de pouvoir réaliser, je dirais, votre mission, et tout en l'accompagnant près de populations, si vous voulez. Je crois que c'est ça notre œuvre d'élu, ce n'est pas de faire des anathèmes, c'est au contraire de faire en sorte que le vivre ensemble eh bien, se réalise concrètement dans nos cités. Merci.
Alors, nous allons peut-être en rester là. N'hésitez pas à rester, à échanger avec nous. Il y a pas mal de personnel de l'association Régis, des administrateurs, des bénévoles. N'hésitez pas aussi à participer à ce petit atelier autour de « Dessine-moi une maison, dessine-moi un centre ». Et encore une fois, un très grand merci de vous être mobilisés ce matin.